Mon prochain invité est le président de Nunasoft et je suis très très curieux de m'entretenir avec lui parce que on a tout à comprendre et à découvrir de cette entreprise. Éric Poncet, bonjour.
Bonjour Louis-René.
Alors, comment décrire ce que vous faites? Parce que je lisais en fait la petite description qu'on nous avait fournie sur vous. Vous avez été consultant en informatique, vous êtes architecte aussi de logiciels, vous avez travaillé en Espagne, en Allemagne, vous êtes multilingue, vous étudiez aussi les langues autochtones du Canada. Vous êtes ingénieur en informatique, vous avez une maîtrise aussi en informatique et vous vous intéressez à la culture via l'informatique. De quelle manière?
En fait, c'est ça, c'est une passion double pour les technologies et les cultures. Ce qui m'intéresse surtout, c'est comment adapter les technologies aux cultures, alors que ce qui se passe souvent, c'est le contraire. Surtout des cultures de petite taille avec des gros guillemets, souvent, c'est elles qui doivent s'adapter à la technologie.
Et dans quel contexte vous travaillez avec les Autochtones du Canada et du Québec, justement, de ce point de vue-là?
Alors, si on décompose la manière dont une culture rentre dans la technologie, on peut voir trois côtés. En fait, il y a l'entrée, le traitement, puis la sortie. Les langues syllabiques, par exemple, ont des problèmes à rentrer dans l'informatique. C'est-à-dire, elles peuvent être rentrées, mais de manière très compliquée.
Qu'est-ce que les langues syllabiques?
Alors, très bonne question. C'est des langues qui ont un système d'écriture qui n'est pas basé sur des lettres A, B, C, D, sur notre alphabet, mais sur des syllabes. Donc ça serait l'Inuktitut, le Cri, le Blackfoot, le Cherokee, enfin un certain nombre de langues qui font que, plutôt que de développer des choses particulières pour eux, les éditeurs d'informatique, de logiciels, ont développé des choses plus ou moins adaptées, où on doit faire des CTRL-SHIFT-K pour faire quelque chose qui sonne comme RA, par
ouais.
exemple. Donc des choses pas très intuitives qui font une barrière pour la langue.
Mais il n'y a pas quand même des claviers maintenant qui existent dans toutes les langues et qui peuvent transmettre justement ces différents caractères. Là, vous me pointez en même temps qu'on se parle ce clavier parce que vous avez apporté avec vous, je dirais, un des produits que vous fabriquez vous-même.
Mm-hmm. C'est ça, ce qu'on a sous les yeux, c'est un clavier syllabique. L'emploi est très simple, c'est que si je veux un symbole syllabique, j'appuie sur la touche qui correspond à ça. J'ai pas à faire CTRL, ALT, SHIFT, K.
Donc, parlons en fait de ce besoin premier. D'abord, l'écriture, l'enseignement, la transmission de la langue, qu'elle soit en Inuktitut ou en fait dans les différentes langues nord-amérindiennes, par exemple, amérindiennes d'Amérique du Nord. Dans ce cas-ci, c'est un clavier pour quelle langue qu'on a devant nous?
Ça, c'est le Blackfoot.
Blackfoot. Il y a combien de caractères?
Disons, sur ce clavier-là, on va compter 80 touches à peu près. Mais avec plus de possibilités de caractères, puisqu'on peut utiliser quelques combinaisons simples de touches.
Donc
je prends le clavier Inuktitut, par exemple. On a une touche pour rallonger une syllabe, mais c'est une seule touche qui fait ça.
À partir de quel moment l'informatique est entrée justement dans les communautés? À partir de quand on est sorti en fait de la calligraphie manuelle?
En fait, dès que la technologie est arrivée, elle est arrivée avec des claviers anglais. Après, on a dérivé vers des langues plus utilisées comme le français, donc on a des claviers français. Mais on peut dire que la technologie est arrivée dans ces communautés-là sans vraiment être adaptée pour ça.
Alors, vous avez fait le tour de plusieurs communautés au Québec, entre autres. Les besoins les plus criants en termes de technologie, quels sont-ils?
Alors, disons qu'il y a un accès à peu près les mêmes technologies qu'on a ici. Au lieu d'être des liens haute vitesse par fil, c'est par satellite, par exemple. Mais on a un très haut niveau de technologie. Simplement, c'est une technologie qui est conçue par un monde anglophone, mm-hmm. avant tout. Donc, qui n'intègre pas complètement ces langues, déjà sur le système d'écriture.
À partir du moment où les claviers, comme ça, adaptés pour les différentes langues, par exemple, lesquels avez-vous fabriqués ici pour le Québec?
Donc, pour le Québec, on a l'Inuktitut, on a le Cri. Je suis en train de travailler aussi sur un syllabaire Ojibwe.
Mm-hmm.
Un peu plus loin, je travaille sur le Déné aussi. Un peu plus au sud, le Cherokee. Puis je suis en train de penser au Berbère, au Maya, pourquoi pas.
Ben oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a changé depuis que ces communautés ont accès à vos claviers? Vous êtes le seul à fabriquer ça, hein?
À ma connaissance, oui.
Ben, je vais me fier sur vous, puisque vous êtes le grand spécialiste. Si vous aviez la concurrence, vous le sauriez. Comment ça a été reçu? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces claviers, de cette technologie?
Bah, en fait, au départ, c'était une surprise un petit peu. C'est sûr que c'est un objet qui est tellement simple. Quand on le voit, on comprend tout de suite comment ça marche.
Ouais.
Il existe des méthodes qui ont été faites par les, je dirais principalement des informaticiens, des techniciens, où les séquences de touches à rentrer sont très compliquées. En fait, ce qui prouve que la réflexion n'avait pas été assez poussée pour ces langues-là.
Maintenant qu'on utilise ce clavier, ça simplifie évidemment beaucoup l'enseignement, toute la transmission du savoir. J'ai aussi devant moi, en fait, un dictionnaire très, très, très volumineux. En fait, la seule chose que je réussis à décoder, c'est la date, 1991. Donc, qu'est-ce que ce dictionnaire?
Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la phase 1 de notre mission, qui est l'entrée dans l'ordinateur. La phase 2, c'est le traitement. Ça, typiquement, c'est un dictionnaire inuktitut vers inuktitut. C'est comme le Robert en français, par exemple. Donc, il n'y a pas du tout de langue étrangère. Il n'y a pas d'anglais, pas de français dans ce dictionnaire. Le problème, c'est qu'il a été rentré dans l'informatique avec une position de caractère très particulière, qui n'existe plus. Elle a été rentrée par un logiciel qui n'existe plus. Et les fichiers ne peuvent pas être récupérés, en fait, directement. Non. Donc, c'est un dictionnaire qui a été imprimé, mais qui ne peut plus être réédité. Donc, soit il faut tout rentrer à la main, avec les nouvelles technologies, ou utiliser un outil de conversion, de traitement. C'est ce que j'appelle la phase 2. Donc, moi, j'ai développé un outil de traitement qui récupère 99,97% de ce qui a été fait là. Le reste, c'est des erreurs de fichiers.
99,97%.
Voilà, donc c'est un ouvrage de 21 329 mots, l'exem plutôt, en inuktitut, qui a été récupéré. Grâce à la technologie, le paradoxe, c'est que la technologie a menacé cet ouvrage.
Ouais.
Et ensuite, elle le récupère. C'est un peu l'arme à double tranchant, comme je dis, de la technologie.
Qui avait publié ce dictionnaire inuktitut?
Ça a été fait en collaboration avec Avatac, l'Institut culturel Avatac, puis également des universitaires qui travaillent sur l'inuktitut. Et l'auteur est très connu, il s'appelle Tamusi Kumar. Et il avait fait un travail fantastique de rassembler ce dictionnaire, comme on peut l'imaginer.
Parce que j'imagine que c'est le seul qui existe.
Je pourrais pas être super affirmatif là-dessus. Ouais. Peut-être qu'il en existe au Nunavut, parce que ça, c'est pour le Nunavik. Mm-hmm. Mais il y en a pas, ça court pas les rayons de librairie.
Éric Poncet, Nunasoft est une entreprise assez particulière, on vient de l'entendre, qui se concentre sur l'accès à la culture via les technologies. Qu'est-ce qui reste? On parlait en fait de différentes langues, peut-être, oui, à servir à travers ces claviers que vous fabriquez pour leur permettre d'écrire dans leur sigle. Qu'est-ce qui est le plus grand manque autre que celui-là dans les communautés que vous avez visitées?
En fait, je pense que le manque est plus dans la technologie qu'autre chose. Donc, c'est sur quoi on travaille. Des outils d'entrée, vraiment adaptés aux langues. Des outils de conversion, parce qu'il y a un patrimoine culturel fantastique qui a été rentré avec des vieilles polices de caractère. On en a un exemple avec le dictionnaire ici, qui ne sont pas réutilisables directement, qui risquent de se perdre. Parce que la technologie évolue trop vite. Et puis les gens, ils sont dans le jus, ils n'ont pas le temps de convertir un truc qui a été fait il y a 10 ans. Donc, ils l'oublient.
On parlait justement de cette préservation-là, hein, de l'information. On se disait la technologie un jour va peut-être être dépassée. C'est déjà le cas. Éric Poncet, Nunasoft est une entreprise qui est établie où?
À Montréal.
À Montréal.
Dans le coin.
Et si on veut d'autres informations sur vous, comment on fait?
Ah ben, on va sur le site internet, www.nunasoft.ca.
Merci beaucoup de nous avoir partagé en fait ce savoir et ces problématiques liées à une chose toute simple, hein, pour ceux qui ont un clavier devant soi, lorsqu'on est en lettres régulières, c'est très 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 simple de s'exprimer. Évidemment, quand on a un autre langage et qu'il n'y a aucun clavier adapté, on peut pas chatter, hein. C'est surtout je dirais la simplicité qui rend la chose complexe. Éric Poncet, merci beaucoup. On ira voir Nunasoft à cette adresse www.nunasoft.com. On va se laisser. À très bientôt.
Merci infiniment pour votre invitation et bravo pour votre radio. C'est fantastique.
Merci. On va se laisser en musique. On ira vers les publicités. Après, ce sera Manon Barbeau qui viendra nous présenter son projet, la Wapikoni Mobile.